9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
C'est bon, pardon.
Alors, Maître Serran, je vais vous expliquer un truc radio. Non, mais... Vous savez que quand c'est rouge, Maître Serran, c'est-à-dire que le micro est ouvert. Donc,
c'est vrai.
Là, je ne sais pas ce que les auditeurs ont entendu.
Si c'était rouge, c'était le truc qu'on m'a montré. C'était le bout du truc. Bon, enfin. Bon, allez, Al-Shaitan, bon, allez, on démarre. Bon, allez, bien le bonjour, auditrices et auditeurs, pour cette 9e émission de l'année 2022. Maître Serran, avocat de son État, est ravi de vous retrouver. Alors, c'est fait, la Russie a lâché son armée sur l'Ukraine et avec les chaînes d'infos, on continue. C'est comme si on était sur place, c'est même angoissant comme ambiance. D'ailleurs, le plus jeune de mes enfants m'a même demandé si la France pouvait recevoir une bombe nucléaire de la part de la Russie. Oula, dès que j'ai entendu ça... Je lui ai mis des dessins animés, c'est beaucoup plus reposant. Alors, y a-t-il vraiment un méchant et un gentil dans cette histoire? Je sais que cette question pourrait sembler provocatrice. Si tu ne manifestes pas un soutien inconditionnel à l'Ukraine aujourd'hui, tu es un mauvais garçon. Quand tu regardes la télé, tu comprends que le gentil, ce serait l'Ukraine. Il flotte d'ailleurs un drapeau ukrainien en haut, à gauche, sur certaines chaînes. Pas un présentateur non plus sans afficher à sa boutonnière les couleurs de l'Ukraine. De nombreux pays ont pris des sanctions à non plus finir contre la Russie. C'est oublier qu'en Russie, il y a aussi un peuple qui finira par souffrir de ces sanctions. La Russie est blacklistée de toutes les compétitions internationales. C'est le blocus. On saisit les bateaux. On tente d'asphyxier financièrement le pays. Pas certain qu'on fasse plier le maître du Kremlin comme ça. Alors c'est sûr que spontanément, tu dis les pauvres Ukrainiens contraints à l'exil et puis tu découvres qu'il ne fait pas bon être noir ou arabe en Ukraine. On a tous vu ces vidéos, les Ukrainiens interdisaient aux personnes noires et arabes de prendre les trains pour quitter les grandes villes. On a tous vu ces personnes noires ou arabes se réfugier en Pologne et se voir refuser l'entrée de ce pays. Mais qu'est-ce que c'est que ces peuples profondément haineux? Il faudra quand même préciser aux Ukrainiens qui se sont réfugiés en France qu'en France, il y a beaucoup d'Arabes et beaucoup de Noirs, les gars. Et puis, cette situation nous a révélé quelque chose sur l'Europe. L'Europe est prête à tout pour accueillir les Ukrainiens, et c'est bien. Mais c'est cette même Europe qui était beaucoup moins motivée pour accueillir, il n'y a pas si longtemps, les migrants venant, par exemple, de Syrie. Combien de pays ont installé des barbelés, construit des murs à leurs frontières? Une grande partie du monde est solidaire avec l'Ukraine, et c'est bien. Mais j'aurais aimé voir cette même solidarité à l'égard des Palestiniens ou à l'égard des Ouïghours, mais c'est vrai que les uns et les autres ne sont ni européens, ni chrétiens. Mais revenons à des choses plus terre-à-terre. Bientôt plus de passe vaccinal, ça tombe bien. L'annonce a été faite au moment même où le président se déclare officiellement candidat pour un nouveau mandat. Alors les mauvaises langues pourraient se dire que le hasard fait bien les choses. D'ailleurs, depuis cette histoire ukrainienne, vous aurez remarqué qu'on ne parle même plus du virus, alors que la veille de ce conflit, on nous matraquait toutes les secondes avec le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes en réanimation. Je vais finir par croire que ce virus n'a jamais existé et qu'il ne s'agissait en fait que d'un mauvais rêve. Mais il est temps de laisser vos rêves, mauvais ou pas, de côté pour nous contacter au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon qui continuera de porter le masque, d'arborer son passe vaccinal malgré son abolition. À vous, maestro.
Vous êtes gonflé, Maître Serran.
Quoi, c'est vrai, non?
Ouais, vous êtes gonflé. Non, je porte pas beaucoup le masque.
Non, mais...
Ça me fait mal aux oreilles.
La
vérité, c'est que ça me scie les oreilles.
Ah, mais faut prendre un truc à votre taille. Vous n'êtes pas obligé de prendre un masque pour enfants.
Mais non, mais ils font des masques, je sais pas, comme si on avait tous des petites têtes, Maître Serran. J'ai les oreilles, mais.
Ah bon? Moi, j'ai une grosse tête et ça me dérange pas,
Mais est-ce que vous portez votre masque?
Bah, bien sûr.
Bon.
Mais quand je rentre là, quand j'arrive à la radio, j'ai mon masque ou pas?
Non.
Bah, carrément?
Non.
Ah ouais, vous faites passer pour un menteur comme ça en direct.
Non, je n'ai pas le masque, Maître Serran.
Non, mais.
Ah oui, il est là.
Oui, il est là.
On est d'accord qu'il est posé sur le. Bon, alors Maître Serran, comment ça va? Vous voulez qu'on en parle?
Ça va.
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui vous a perturbé en ce début d'émission?
Alors, ce qui m'a perturbé, parce que je vous entendais parler de... Alors c'est quoi? C'est un truc qui s'appelle la quéqueterie, je crois, et ils vendent des gâteaux ou quelque chose comme ça. Et ça m'a un peu soufflé, puisque je savais pas qu'un truc pareil existait. C'est-à-dire que le type... Ils vendent des pâtisseries en forme de sgeg.
Ouais,
c'est n'importe quoi.
Ouais, ça se vend.
Et ça se vend. Oh, non, c'est la fin du monde. Hein. Je suis trop vieux, je sais pas.
C'est peut-être ça, Maître Serran.
C'est peut-être ça, ouais. D'accord.
Ouais, ça ferait pas plaisir à Madame Serran.
Bah à part la quéquetterie de Mourad Serhan, je interdis même en gâteau d'en prendre une autre, mais quand même, je trouve ça extraordinaire de vendre ça. Bah écoutez, si ça marche.
C'est ça?
Ouais, non, ouais, c'est,
si ça existe, c'est que ça se vend. Voilà.
D'accord.
Bien. Toutes les semaines, j'apprends des choses avec vous, Maître Serhan, et vous m'avez posé une question hier, savoir jusqu'à quel âge on doit payer une pension alimentaire, et en la matière, eh bien, la loi ne dit rien.
C'est ça qui est assez extraordinaire.
C'est fou.
Et c'est ça qui... on va pas faire semblant, en règle générale, ce sont les pères hein, qui sont condamnés très souvent à la pension alimentaire, et donc ça concerne évidemment souvent madame et les enfants du couple. Et la question éternelle qui est posée par celui qui a fait l'objet d'une condamnation est de dire bon d'accord, je vais payer la pension alimentaire, alors je vais dire de gré ou de force, mais jusqu'à quel âge? Et très souvent les clients vous disent mon enfant a 17 ans, 17 ans et demi, demain il aura 18 ans, donc est-ce que je peux arrêter de...
qui va être majeur quoi.
Bah c'est ça. Donc et c'est vrai que alors c'est peut-être dû aussi un peu à tout ça à cause des avocats, il faudrait qu'on explique quand même que bon si le gamin a 12 ans au moment où la condamnation est rendue, mais dire au père qu'il en aura pour de nombreuses années et même au-delà de la majorité de l'enfant. C'est vrai que c'est rarement une discussion qu'on a, c'est-à-dire qu'on part du principe que si l'enfant a 12 ans, a 15 ans, bon monsieur, vous avez été condamné à une pension alimentaire, et ensuite on va pas forcément aller jusqu'au bout du raisonnement. Il faut savoir qu'à 18 ans, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain.
Non, mais d'où elle vient cette idée que la pension, le paiement de la pension alimentaire s'arrête à la majorité?
Parce qu'on en tout cas on considère, c'est-à-dire on a l'impression que dès que c'est la majorité, l'enfant est ou serait autonome, et donc s'il est autonome et s'il est plus entre guillemets à la charge de la mère, donc il n'y a aucune raison que je verse de l'argent à la mère pour pouvoir s'occuper de l'enfant, parce que la pension alimentaire c'est ça, c'est contribuer à l'éducation, à l'entretien de l'enfant, c'est-à-dire je vais verser une somme d'argent. Au début, on la versait jamais à l'enfant directement, on versait ça directement à la mère, mais pourquoi? Pas pour que madame aille faire du shopping, c'est pour que la mère puisse s'occuper de l'enfant et donc lui acheter à manger, éventuellement payer des loisirs, habiller le gamin. Donc voilà, le propre de cette somme d'argent, c'est ça. Alors cette somme d'argent doit être versée en principe en fonction des revenus de monsieur, mais cet argent, parce que souvent je l'entends, mais même de la part de mes clients, pour dire oui, mais tiens, il y a madame qui a acheté un manteau, est-ce que c'est... Non, j'imagine que c'est pas avec votre pension alimentaire, puisque cet argent, encore une fois, revient à l'enfant, et qu'en règle générale, tous ceux qui ont des enfants se doutent bien que verser 150, 200, voire même 300 euros par mois, c'est pas suffisant pour, entre guillemets, s'occuper d'un enfant et subvenir aux besoins de l'intéressé.
Et tous les jours du mois.
C'est ça.
Mois, c'est 30 jours. Hein.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une fois par mois. Donc souvent, celui qui a fait l'objet d'une condamnation se dit maintenant qu'il a 18 ans, il peut être autonome, c'est-à-dire que il a 18 ans, s'il veut faire sa vie, qu'il la fasse, sauf que vous avez des enfants qui ont 18 ans mais qui ont parfois un problème de santé ou parfois un handicap, donc on va exclure cette notion de majorité. Vous avez des enfants qui ont 18 ans mais qui poursuivent des études, et il faut savoir que la règle et le principe, c'est qu'on continue de verser la pension alimentaire tant que l'enfant reste au domicile du parent concerné, donc au domicile du père ou de la mère, et tant que cet enfant n'est pas autonome. Donc un enfant qui serait étudiant et qui continue ses études à 20, 22, 23, 25 ans et qui ne fait que ses études et qui travaille pas, il reste à votre charge. Et donc si le père a été condamné à verser une pension alimentaire que l'enfant avait 12 ans, il continuera de verser cette pension alimentaire si l'enfant a 24 ou 25 ans. Donc c'est vrai que il y a ce raisonnement là en disant mais attends, il a 18 ans, il a qu'à se débrouiller. Il se débrouille en faisant des études, et donc il est à la charge de la mère, et tant qu'il reste à la charge de la mère, c'est au père, encore une fois, parfois c'est aussi la mère, hein, qui est condamnée à verser la pension alimentaire.
C'est donc le critère. C'est que tant que l'enfant reste à la charge de l'un des deux parents, il peut bénéficier d'une pension alimentaire.
C'est-à-dire
qu'à 30 ans, s'il vit encore chez sa mère et qu'il ne travaille pas...
Il peut en bénéficier, mais ensuite, ce qui se passe en règle générale, c'est-à-dire que il faut savoir que... là, on est en train de parler d'enfants qui sont mineurs, donc c'est la mère... encore une fois, je suis désolé, il n'y a pas que la mère qui demande la pension alimentaire, mais on va prendre ça, ça va être plus simple pour le raisonnement. C'est la mère qui engage la procédure. Mais un enfant qui est majeur peut ensuite, tout seul, engager une procédure contre le père si, par exemple, je dis n'importe quoi, s'il considère que les 150 euros par mois qui étaient versés par le père, alors que le gamin a aujourd'hui 20 ou 22 ans, ne sont pas suffisants, il peut, à son tour, saisir un juge aux affaires familiales, donc il passe plus par sa mère, donc saisir un juge aux affaires familiales et demander ce qu'on appelle une revalorisation de la pension alimentaire. Donc, je dis pas qu'on en a quand on est condamné pour ad vitam aeternam, mais voilà, tant que l'enfant n'est pas financièrement autonome, vous êtes tenu de verser cette pension alimentaire. Alors, rien vous interdit, parce que souvent on entend dire, mais attendez, je crois qu'il travaille ou je crois qu'il a arrêté ses études. Dans ce cas-là, c'est au père de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et à ce moment-là, ce sera à l'enfant d'apporter les éléments, les justificatifs de sa situation. Mais vous avez bien compris que à partir du moment où ça arrive, où je suis même un faux étudiant, c'est-à-dire que je présente un certificat de scolarité, je suis inscrit à l'université lambda, alors qu'en vérité j'y suis pas à plein temps, ou qu'en vérité je suis en train de travailler, c'est pas l'enfant qui va vous apporter les éléments pour recevoir un coup de gourdin. Donc c'est une position qui est difficile pour le père d'apporter ce genre d'éléments, parce qu'en règle générale, quand on en est là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contact ni avec son ex, donc avec la mère de l'enfant, ni avec ses enfants. Donc la charge de la preuve devient un peu difficile. Mais c'est à celui qui invoque des éléments d'apporter la preuve comme quoi l'enfant est aujourd'hui totalement autonome et financièrement autonome, et que je m'autorise à demander au juge soit la suppression de la pension alimentaire, soit une réduction qui peut être importante, drastique, de la dite pension. Mais si vous ne pouvez pas apporter la preuve de ces éléments-là, la pension sera due.
Il n'y a pas de jurisprudence en la matière.
Non, encore une fois, le risque, c'est quoi? C'est que j'ai un dossier qui est rentré il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que vous avez parfois, il peut y avoir un accord entre papa et maman. En disant bon, il y a un juge qui te condamne à, mais voilà, le ne paye pas, c'est pas grave. La difficulté, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous baser sur la confiance en disant bon, elle m'a demandé de pas payer, sauf que ce pauvre client qui est venu me voir donc a obtenu cet accord de la part de son épouse, mais c'est un accord verbal, c'est-à-dire que il n'y a pas un courrier, il n'y a pas un mail, il n'y a rien, et il se trouve dans quelle situation? Ben, il se trouve dans la situation où au bout de quasiment 3 ans de pension non réglée, bah tout ça s'est accumulé. Mais puisqu'il n'y a pas d'accord, en tout cas qui peut pas prouver qu'il y a un accord entre monsieur et madame, madame l'a poursuivi devant un huissier de justice, et on a aujourd'hui une pauvre personne qui se retrouve avec les huissiers sur le dos, avec des comptes bloqués. Donc faut faire attention à ça. Il peut y avoir une exception quand un jugement dit monsieur, vous êtes condamné à payer une pension alimentaire s'il y a un accord entre vous, ou alors si au moment où madame demande la pension alimentaire, on constate que monsieur est insolvable. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a pas de revenus qui rentrent, ou alors il a des revenus mais il a beaucoup de charges, à ce moment-là, vous êtes dispensé de verser une pension alimentaire et vous êtes entre guillemets tranquille. Mais en dehors de ça, donc en dehors du fait d'être dispensé par le juge et pas vous tout seul dans votre coin, ou en dehors d'un accord avec madame, vous êtes tenu de verser cette pension alimentaire, et ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire que souvent, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent on dit ouais, mais la situation de l'enfant a évolué. Il faut retourner devant le juge. Il faut une nouvelle décision du juge aux affaires familiales pour constater que la situation a changé et pour vous dispenser de verser une pension alimentaire. Tant que vous n'avez pas un nouveau jugement, c'est toujours le premier jugement qui est et qui sera applicable. Donc faut faire attention à ça, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir lourd quand tous les mois s'accumulent et que du jour au lendemain, madame demande l'exécution de la décision.
Bien, alors, si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serrane, y compris sur la pension alimentaire d'ailleurs, hein, vous pouvez l'appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et vous savez, ça fait des années qu'il est là avec vous le vendredi, Maître Serrane, et qu'il répond à vos questions au 01 53 48 3000. Si vous saviez le nombre d'appels que j'ai reçus la semaine dernière, vous concernant Maître Serrane, concernant cette situation de personnes qui rentrent sur le territoire français en conditions irrégulières et qui arrivent à avoir la nationalité. Mais, oui. Mais alors ça, c'est un truc de malade. Alors,
encore une fois,
on va traiter ce sujet une fois pour toutes, parce que mais pas aujourd'hui.
Mais juste pour répondre à ça, il y a un principe en la matière. Le principe, c'est que ce qu'on parle de pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que moi, préfet, je peux vous donner, vous régulariser, et l'administration peut même vous attribuer la nationalité française. C'est mon pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire je fais ce que je veux. Mais vous verrez le nombre de décisions qu'on reçoit quand vous avez des personnes qui décident de contester devant un tribunal administratif. Le jugement est motivé comment ? C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes rentré sans visa. Donc, vous n'étiez pas autorisé, donc moi, tribunal, je donne raison à la préfecture. Parfois même, et ça arrive assez souvent, c'est ça qui est un peu fou, vous êtes rentré avec un visa, mais pas le bon, c'est pas un visa d'installation. Vous avez un visa, je suis un touriste, et puis une fois que je suis en France, je demande à être installé. Et vous avez des décisions qui sont motivées dans ce sens-là, en disant, mais attendez, vous êtes rentré avec un visa, mais pas le visa qui va vous permettre de vous installer. Donc moi, tribunal administratif, je vais donner raison au préfet. Ce serait pas sérieux de laisser entendre à ceux qui vous appellent et vous disent bah, « je suis rentré sans visa et donc est-ce que la vie va être facile ?» Non, c'est faux. Maintenant, ça veut pas dire, évidemment et heureusement, le pouvoir discrétionnaire, c'est aussi ça, ça veut pas dire que le préfet n'accorde pas parfois, j'allais presque dire le pardon en disant « bon, bah d'accord, voilà la situation, mais j'ai n'importe quoi, le type est marié, le type a des enfants, il justifie de fiches de paye depuis X temps, donc il y a aussi ce côté entre guillemets humain qui est pris en considération. Mais il n'y a pas de texte de loi qui viendrait vous dire vous êtes rentré sans visa, banco, je vais vous régulariser. Il faut faire attention à ça. Hein.
Bon, en tout cas, c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs. Je peux vous le dire, Maître Serran, ça n'a pas arrêté de la semaine. Alors nous avons Iman qui est avec nous au 01 53 48 3000. Iman, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Iman.
Oui, bonjour. Alors, une petite question par rapport à mon travail.
Alors, Iman, est-ce que vous avez le haut-parleur, le kit main libre, peut-être de brancher sur votre téléphone ?
D'accord.
Voilà, il faut l'enlever, vous allez voir, comme ça on va bien vous entendre.
Oui, allô ?
Voilà, c'est tellement mieux. Alors, c'est une question qui concerne le droit du travail, on vous écoute.
Oui, en fait, là, je travaillais depuis 6 mois, donc bon, c'est pas beaucoup, depuis fin septembre 2021, en CDI. Et la semaine dernière, ils m'ont envoyé un recommandé pour un entretien préalable au licenciement.
D'accord.
Et bon, on a fait l'entretien et ils m'ont proposé une rupture conventionnelle.
Et il vous est reproché quoi, entre guillemets ? Pourquoi est-ce que vous avez reçu ce courrier ?
En fait, parce que au début, c'est une société qui intervient sur toute la France.
C'est une société de quoi ?
Moi je suis géomètre et
d'accord.
Et du coup à la base quand ils ont fait l'annonce pour chercher un géomètre, c'était pour intervenir sur Île-de-France, donc moi je suis partie sur ce principe là
d'accord,
sauf que des fois ils demandent des déplacements et d'accord. Moi vu que j'ai des enfants, moi je peux pas, je leur dis bon, je peux pas. Mais le problème, c'est que dans le contrat, c'est pas précis que c'est que dans l'Île-de-France, quoi.
D'accord. Il y a une clause dans le contrat qui dit que vous serez amené à exercer vos fonctions.
Ben voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est-à-dire, votre contrat, précisément, il dit quoi ?
Ben, il précise pas, en fait, si en Île-de-France, si toute la France. Ça reste comme ça, il précise pas.
D'accord, c'est-à-dire que si on applique le contrat à la lettre, je peux, entre guillemets, vous envoyer un peu partout.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et maintenant, ils m'ont dit, on a perdu des marchés en de France, donc il n'y a pas assez de boulot en Île-de-France. Ouais. Du coup, on a du travail ailleurs. Et vu que vous avez des enfants, donc vous pouvez pas faire le déplacement, donc on vous libère. Donc moi, je veux savoir... je fais quoi ? Est-ce que j'accepte cette rupture conventionnelle ou...
Alors, vous savez, sur le principe, il vaut mieux accepter une rupture conventionnelle que de se retrouver, évidemment, devant un conseil des prud'hommes, puisque ça prend des siècles. Maintenant, la rupture conventionnelle, vous ne pouvez pas l'accepter à n'importe quelle condition. Est-ce qu'ils vous ont fait une proposition chiffrée ?
Pas encore. On va faire un entretien la semaine prochaine. pour parler des indemnités.
Bah voilà, donc c'est ça qui va être important, parce que la difficulté, c'est qu'ils auraient entre guillemets un motif pour vous licencier, c'est-à-dire que ce serait très facile pour la société de dire j'ai n'importe quoi, lui demander d'aller à Amiens, d'aller à Marseille, d'aller à Lille, et puis elle refuse, alors qu'a priori, de ce que vous êtes en train de me dire, madame, le votre contrat le permettrait. Vous voyez, on vous dit pas dans votre contrat que vous avez travaillé qu'en région parisienne, en Île-de-France et autres. Donc c'est vrai qu'il pourrait se baser sur ça et vous embêter sur ce terrain-là. Donc encore une fois, il s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi, mais voyez d'abord la proposition qui vous est faite. Mais parfois, vous savez, il vaut mieux un accord immédiat et puis on a son argent et on passe à autre chose, que des procédures qui peuvent durer un an et demi, deux ans, trois ans, et ça vous mine l'esprit pendant des semaines et des semaines. Donc c'est pas à exclure, cette rupture conventionnelle est parfois intéressante pour les uns et les autres.
D'accord. Est-ce que ça sera utile de demander qu'ils disent en chiffres, est-ce que c'est vrai ou c'est juste une excuse? Est-ce que ça va être utile ou pas?
Est-ce que j'ai pas compris, pardonnez-moi.
Ils disent que il y a pas assez de boulot en Île-de-France. Est-ce que je peux leur demander une preuve?
Ah bah évidemment, c'est-à-dire que dans ce timing de 6 mois, si on vous a recruté il y a 6 mois, c'est qu'a priori voilà, quand on fait appel à un nouveau salarié, c'est qu'a priori il y a quand même un besoin particulier. Ça me semble un peu curieux que de dire au bout de 6 mois il y aurait plus de chantier particulier. Donc bien sûr que vous pouvez leur demander de justifier, mais le vous avez bien compris que ça changerait rien de particulier. C'est-à-dire que si leur argumentation, ce serait de dire quand même, parce que même si j'ai du travail, moi, en région parisienne, et j'ai envie de vous envoyer sur Toulouse, je pourrais le faire. Comprenez le truc. C'est-à-dire que je comprends le sens de votre question en disant, on vous dit, mais il n'y a pas beaucoup de boulot dans le secteur, donc on vous envoie un peu plus loin. Mais quand bien même, il y aurait du travail en région parisienne, j'ai le droit, moi, chef d'entreprise, de dire je veux vous envoyer, encore une fois, sur Marseille, Toulouse ou ailleurs. Donc, voilà, faites attention à ça, c'est pas forcément un argument. Hein.
Oh, oui. D'accord. Donc, vaut mieux accepter une rupture conventionnelle et on peut négocier un peu les indemnités, voilà.
Mais je vous le dis, encore une fois, je vous assure que les prud'hommes, en dehors d'une procédure de référé, c'est une procédure d'urgence, mais qu'on peut pas faire pour toutes les procédures devant les conseils de prud'hommes, mais en dehors de ça, ce sont des procédures qui durent extrêmement longtemps. Et puis il y a toujours un aléa quand vous faites quand vous engagez une procédure. Malheureusement, on gagne pas tout le temps. C'est-à-dire que parfois vous pouvez patienter un an et demi, deux ans, peut-être plus. Et puis recevoir une décision de débouter, comme on dit, c'est-à-dire que le conseil de prud'homme dit bah non, moi je considère que il y a pas suffisamment de preuves, il y a pas suffisamment d'éléments, et on donne pas raison aux salariés. Alors on peut toujours faire appel, mais c'est encore rajouter des mois et des années de procédure. Donc parfois, il est plus intéressant d'accepter une rupture conventionnelle et puis de passer à autre chose.
Ouais, d'accord. Okay. Merci beaucoup.
Merci à vous beaucoup, Iman, pour votre question.
Merci, au revoir, bonne journée.
Enfin, ceci dit, au bout de 6 mois de présence, vos indemnités conventionnelles ne sont pas énormes. Hein.
Non, mais dans l'hypothèse même où il y aura une saisine du Conseil de prud'hommes, ça vaut pas, selon moi, comme ça objectivement, ça vaut pas.
Ça vaut pas le coup
ouais. Puisque bon, en règle générale, même si l'avocat n'est pas obligatoire, vous prenez un avocat, donc il y a des frais de procédure, ça dure très longtemps, donc c'est pas certain que ce soit intéressant de d'aller en contentieux. Alors oui, l'indemnité conventionnelle sera pas très élevée, mais ça correspond aussi
à la présence,
au nombre de mois travaillés. Hein.
Alors on a Tariq avec nous, 01 53 48 3000. Tariq, bonjour et bienvenue.
Allô.
Bonjour Tariq.
Allô, salam alaikum, merci.
Salam alaikum, Tariq.
Salam tout le monde. Bon vendredi à tout le monde.
Alors Tariq, on écoute votre question.
En fait, j'appelle par rapport à un pote à moi qui est au Maroc. Mais il a un enfant ici en France. Qu'il a eu sa nationalité à l'âge de 15 ans, ça fait même pas un an. Est-ce que mon pote, il a le droit de demander la carte séjour?
Alors, on peut pas répondre à cette question comme ça de but en blanc. C'est-à-dire que la situation de votre pote, c'est quoi? C'est-à-dire que, alors, il y a un enfant. C'est, il était sur le territoire français à un moment, ou c'est madame qui était au Maroc? Ça s'est passé comment?
Non, ils ont été mariés au Maroc. Et ça, son ex-femme, elle était ici en France.
D'accord. Madame était de nationalité française, enfin, ou est de nationalité française, non?
Marocain.
D'accord. Donc elle est devenue française ensuite.
Voilà, exactement.
D'accord. Ils étaient mariés, ils vivaient ensemble.
Ils ont été mariés, ouais.
Ouais. Et ils ont divorcé à quel moment?
Ben, quand son fils, il avait 3 ou 4 ans, je crois.
D'accord. La décision donc a été rendue par les autorités marocaines à l'accorder un droit de visite au père.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais.
Bon, alors
ils
si elle
a des pensions alimentaires. Et
d'accord.
Tout.
Bon, alors donc le si votre question c'est de dire est-ce qu'il peut venir sur le territoire français, c'est pas lié à la nationalité. C'est-à-dire que il y a deux choses. C'est-à-dire que votre ami veut venir pour visiter son enfant, ou alors votre question c'est de dire est-ce que de par la nationalité de française de l'enfant, il peut venir s'installer sur le territoire français.
Exactement. Est-ce que c'est un demande de parents d'un enfant français?
Alors, il peut, en la matière, encore une fois, ce qui va être important, c'est de, pour pas qu'on considère que qui profite entre guillemets de la nationalité française de cet enfant pour demander à venir sur le territoire français, il va quand même falloir qu'il justifie qu'il s'est toujours occupé de l'enfant, donc pension alimentaire, oui, qu'il l'a visité, voilà, régulièrement. Ça va être important. Si on considère qu'il y a une continuité, ouais. C'est-à-dire que depuis que la décision est rendue, il s'est comporté entre guillemets comme un bon père. Encore une fois, pension alimentaire, droit de visite et d'hébergement, il n'y a pas de difficulté. Si on considère que le père se réveille simplement parce qu'il a appris que l'enfant était de nationalité française, vous vous doutez bien que les autorités consulaires vont, et plus tard, s'il est sur le territoire français, les autorités préfectorales vont se poser des questions. Donc il faudra qu'il justifie qu'il a été, entre guillemets, un bon père.
Ben, franchement, c'est pas parce que c'est mon pote, mais vraiment, il s'occupe bien de son fils. Il prend son billet, il passe ses vacances avec lui au Maroc, il achète des cadeaux, il envoie l'argent, et c'est tout.
Ben, et c'est pas parce que c'est votre pote, hein.
Ouais, voilà, non, mais.
Non, franchement.
Sinon, c'est un mec bien, en fait.
Ouais, voilà.
Non, mais c'est ça peut arriver. Il est déjà venu sur le territoire français ou pas?
Ouais. Il a un visa, ouais.
Bah ça c'est important aussi, vous voyez, c'est-à-dire que à partir du moment où les autorités constatent entre guillemets qu'on lui a donné un visa et qu'on lui a fait confiance et qu'il a respecté son visa et qu'il est revenu en temps et en heure dans son pays d'origine, tout ça ce sont évidemment des éléments qui seront pris en considération.
Non mais par contre le visa, il prend un visa touriste de l'Espagne, donc
c'est-à-dire que alors souvent hein, moi j'ai des clients qui me disent ça, encore une fois ça reste, c'est important, ça reste beaucoup plus compliqué de d'engager une procédure de demande de régularisation quand vous avez un visa mais qui n'est pas un visa, même si c'est un visa dans le cadre de l'espace Schengen, mais qui n'est pas un visa des autorités françaises. Voyez, si vous demandez à venir chez moi et puis vous avez l'autorisation de mon voisin, c'est pas pareil. Ouais, il faut que ce soit l'autorité française, mais ça me semble juste normal, qui vous donne le visa. Donc c'est pas la même approche. Dire mais je suis venu sur le territoire français via l'Espagne, l'Italie, enfin ou ce que vous voulez. Alors peut-être, mais c'est pas la France qui vous a autorisé à venir.
Non, mais c'est pour voir son fils, c'est juste pour prouver qu'il vient.
Monsieur, j'entends bien et c'est légitime. Hein, je suis pas en train de critiquer le fait que monsieur soit venu via un visa espagnol. C'est juste pour répondre à la procédure qu'il pourrait être engagé. Parce que je vous disais, est-ce qu'il est déjà venu avec un visa? J'aurais dû préciser, est-ce qu'il est déjà venu avec un visa délivré par les autorités consulaires françaises? Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est pas pareil quand c'est la France qui vous dit vous êtes le bienvenu, ou quand c'est l'Espagne qui vous dit vous êtes le bienvenu, entre guillemets, et ensuite vous décidez d'aller en France. Mais, en dehors de ces aspects-là, il y a quand même des éléments, et je le redis, à partir du moment où il justifie qu'il s'est toujours comporté comme un bon père, il peut jouer cette carte-là.
Donc, il a le droit de faire sa demande.
Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Merci à vous pour votre appel.
Merci Tariq.
Salam alaikum, merci.
Salam alaikum.
Allez, d'autres questions à Maître Serran dans un instant. Vous l'appelez au 01 53 48 3000. Si vous voulez passer à l'antenne, hein, vous avez la possibilité toujours d'appeler Maître Serran sur son téléphone. Alors, je dis pas cellulaire pour des tas de raisons, mais portable.
Oui, c'est vrai.
Maître Serran.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Tiens, Maître Serran, donnez-moi un numéro entre 1 et 6.
5.
5, allez, c'est Kamel.
Oui, bonjour.
Bonjour Kamel, bienvenue.
Bon, bonjour à vous et bonne journée avant tout.
Bonjour Kamel.
Je voulais poser des questions, si c'est possible, concernant ma nièce qui est arrivée d'Algérie comme étudiante en bon uniforme, c'est-à-dire avec les visas d'installation étudiante et tout. Donc elle est chez moi, c'est ma nièce, et c'est moi qui lui ai fait tous les papiers d'Algérie, juste ici. Actuellement, elle est toujours chez moi. Et je voulais savoir par rapport aux impôts, administrativement, qu'est-ce qui changerait, est-ce que je pourrais la mettre, est-ce que je peux déduire des choses.
Ben non, monsieur, voilà, il y a pas d'incidence par rapport à ça. C'est-à-dire quoi, vous espériez avoir une part supplémentaire ou ce genre de choses?
Voilà, oui. Du fait qu'elle est sous mon toit, elle est sous mon chargeur.
Non. Le encore une fois, mais comme d'autres, moi, je peux comprendre que les autorités françaises refusent de rajouter entre guillemets une part supplémentaire ou de considérer que ce serait comme s'il s'agissait de l'un de vos enfants. Donc non, vous n'aurez pas de ristourne ou de réduction d'impôts par rapport à ça.
Il n'y a rien qui change alors.
Non.
D'accord. Bon, deuxième question, c'est concernant le droit du travail. On a eu une discussion avec vous, ça fait un moment. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle qui a été accordée et m'ont indemnisé. C'est le travail le 31 janvier. Et en parallèle, j'ai un deuxième job, donc actuellement je suis dans le job. Et on m'a demandé de s'inscrire à Pôle emploi. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a une indemnisation, il y a des choses par rapport à tout ça ou...
En fait, vous avez un deuxième emploi, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai un plein temps. Là, je suis en plein temps.
Là, vous avez un deuxième emploi à plein temps.
Et votre raisonnement, c'est de dire j'ai un deuxième emploi et je vais m'inscrire quand même à Pôle emploi par rapport à la première rupture.
Non, c'est pas que je vais m'inscrire. Je ne veux pas gratter ou quoi que ce soit.
Bah, ça y ressemble, mais c'est quoi la question?
Par rapport au droit, est-ce que j'ai quelque chose de droit, qui me revient de droit?
Non, monsieur.
Par rapport.
Non.
Est-ce que je dois absolument m'inscrire au Pôle emploi ou c'est
non,
pas
mais si vous avez un boulot, est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que je m'inscris à Pôle emploi quand je cherche un emploi.
Attends, j'aimerais quand même que Kamel précise sa question. Est-ce qu'auparavant, vous aviez déjà deux emplois?
Auparavant, j'avais deux emplois.
D'accord. Vous aviez deux emplois à temps plein?
Voilà, exactement.
C'est
comme
ça. Et donc vous avez perdu un de vos deux emplois.
Voilà. Monsieur... Un, je le faisais de nuit.
Voilà.
Qui était garde.
C'est pour ça, en fait.
Mais c'était en CDI. Et le deuxième, c'est en plein temps privé. Donc en libéral. Du coup, j'ai gardé le libéral de jour et j'ai lâché les gardes hospitalières.
C'est particulier, le cumul d'emploi.
Alors c'est ce que j'allais vous dire, monsieur. Ouais, la situation est trop particulière. Donc honnêtement, je vais pas m'amuser à vous apporter une réponse qui tiendrait pas la route. La meilleure source en la matière, c'est de contacter directement Pôle emploi. Ouais,
Mais je suis pas certain que Pôle emploi considérera que vous êtes à la recherche d'un emploi si vous faites déjà 35 heures,
ouais,
en fait.
Enfin, s'il fait déjà un plein temps...
Si vous faites déjà un plein temps, est-ce que vous êtes considéré comme un...
Voilà, ouais. je serais incapable de vous dire, tiens, ma réponse est fondée sur tel ou tel texte, donc...
C'est très particulier.
Ouais, donc dans le doute, il vaut peut-être mieux appeler et avoir l'information à la source et contacter directement Pôle emploi.
Excusez-moi, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a emmené à poser cette question, c'est que quand j'ai reçu les papiers de la rupture conventionnelle, tout ce qui est droit, etc. On m'a fourni un papier où je dois remplir certaines rubriques et envoyer certains papiers.
Ça, c'est votre attestation pour l'emploi.
Oui, mais ça c'est normal. C'est quelle que soit l'activité, on reçoit à la fin dès qu'il y a une rupture, on reçoit ce petit papier. C'est obligatoire, ça, en plus.
C'est pour ça que je vous ai posé. Écoutez, je vous remercie.
Ceci dit, en France, Kamel, dans le cadre d'un cumul d'emplois, je suis pas sûr qu'on ait le droit de faire 70 heures par semaine.
Oui, c'est ça.
Mais bon.
Non, comme c'était des jours et des nuits, mais bon.
Non, mais, mais d'un point de vue juridique,
ouais, bien sûr,
quand je crois qu'en tant que, en termes de travail cumulé, je ne suis pas certain qu'on, ait, qu'on puisse faire 70 heures. Hein.
Ah non,
oui,
ah non
mais c'est maximum, mais milieu,
ça doit être 40, si vous 40 voulez, quelques, ouais, à peu près.
Si vous voulez, il y a tellement de pénuries dans le milieu hospitalier que ils tolèrent. Avant, ils ne toléraient pas. Mais maintenant, tout le monde le sait, il y a plein de gens qui font...
Enfin, faut faire une différence. Hein. S'il y a une règle, la tolérance, c'est pas un argument. Faut faire attention à ça. Voilà, si on accepte comme ça et on accepte un temps, mais si demain, vous êtes confronté à une administration, ils vont pas vous dire, bah écoutez, tiens, on va tolérer. Il y a des textes. Ouais, et effectivement, il y a un certain nombre d'heures à respecter. Mais encore une fois, sous toute réserve. Hein, donc, je vous dis, hein, j'ai pas envie de vous dire des bêtises ou de vous induire en erreur. Il vaudrait peut-être mieux contacter le Pôle emploi directement.
Bah, enfin, écoutez, je vous remercie infiniment.
En tout cas, vous êtes courageux, Kamel, en tout cas.
Hein. Oui, quand je suis arrivé en France, je suis venu comme celle qui chantait, la chanteuse portugaise, là, avec une valise en carton.
Ah ouais,
j'ai dormi sous les ponts et j'ai.
Ah ouais, voilà. Vous êtes super.
Alhamdoulilah, comme dit, grâce à Dieu maintenant.
Vous êtes un warrior, hein, parce que pour faire 70 heures par semaine, c'est quand même.
C'est un défi, mais maintenant, là, j'ai levé le pied, je suis.
Ouais.
Tranquille.
Après, il y a la santé, hein, parce que c'est vrai que.
Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai arrêté.
C'est un sacré rythme, hein, parce que. Pff, voilà,
c'est vrai,
70
c'est
heures par semaine. Chapeau, c'est Kamel. Vrai.
Merci beaucoup et bon courage surtout.
Merci.
Ne changez
merci,
rien, Kamel. Vous êtes agréable.
Super. Alors, on a Ilham. Merci, Kamel. Ilham, qui est avec nous. Ilham, bienvenue.
Moi, je me permets de vous appeler concernant deux choses. Pour la pension alimentaire, parce que je viens de démarrer une procédure de divorce. Donc, l'avocate, elle a fait la requête. Donc, je voulais savoir, ma fille, elle vient d'avoir 18 ans. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma demande? Et est-ce que je peux demander à monsieur qui met la pension alimentaire depuis qu'il est sorti du domicile, depuis le mois de juin? Et autre chose, parce qu'il a été condamné déjà le mois de novembre pour des dommages, pour moi et les enfants, qui n'a pas versé, est-ce qu'il y a une procédure à faire pour solliciter encore le juge pour ce dédommagement?
Alors, il y a plusieurs choses. Quand vous me dites qu'il a déjà été condamné, c'est quoi, devant un tribunal correctionnel?
Oui, devant le tribunal, il a été pour... je vous ai déjà appelé avant et il a été interdit de rentrer en contact avec les enfants. On lui a retiré l'autorité parentale.
D'accord.
Et donc, il a coupé de 3 ans, dont 12... sursis.
D'accord, et donc voilà. C'est devant un tribunal correctionnel. Donc il y a des dommages et intérêts qui vous ont été accordés.
Oui, pour les enfants et moi.
Voilà. Monsieur n'a pas réglé spontanément.
Non.
Alors, dans un premier temps, ce qui est toujours souhaitable, c'est de demander, si vous aviez un avocat, de contacter l'avocat de la partie adverse pour dire d'abord est-ce que monsieur envisage de régler ou pas. Et puis, s'il n'y a pas de réponse ou si on vous répond, non, monsieur veut pas régler, il y a un organisme. Et en fonction des montants, alors pour vous, ce serait éventuellement un organisme qui s'appelle la SARVI. C'est un organisme d'État. La SARVI, c'est un organisme d'État, donc qui va entre guillemets vous régler vous, donc les montants qui sont dus, et qui va se retourner ensuite contre monsieur. Donc ça facilite quand même entre guillemets la vie, ça vous évite de courir après monsieur. Ça, c'est sur l'aspect purement pénal. C'est la condamnation que vous avez obtenue devant le tribunal correctionnel. Ensuite, vous me posez la question de savoir que... donc, vous allez engager quoi, une procédure de divorce? Au moment où on se parle, elle n'est pas engagée encore?
Là, elle m'a dit qu'elle a fait la requête. Normalement, elle a dû la déposer pour divorce pour violence.
D'accord. Donc, à ce moment-là, alors, vous pouvez... même si votre enfant a 18 ans et si votre enfant est à votre charge et si l'enfant ne travaille pas. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ce matin, si vous avez écouté l'émission. Il faut évidemment que l'enfant ne travaille pas. Si vous avez un enfant qui est chez vous, mais qui bosse, évidemment, monsieur aura cet argument pour dire, je vais pas payer une pension alimentaire à un enfant qui est autonome. Donc, il y a cet aspect-là. Mais cette pension alimentaire, madame, vous ne pourrez la demander qu'à partir du moment où vous allez engager la procédure. C'est-à-dire que si vous dites, monsieur a quitté le domicile, j'ai n'importe quoi, il y a 3 mois, vous n'allez pas demander une pension alimentaire pendant ces 3 mois où monsieur n'était pas au domicile.
D'accord, donc la pension alimentaire prend effet à partir de la demande du divorce.
À partir du moment où la procédure est engagée.
Par contre, une chose que j'ai pas compris, pourquoi elle me dit qu'elle doit faire ça en deux parties? Elle me dit c'est la nouvelle.
Oui, les réformes. Ça c'est exact. Non mais auparavant, c'était ça aussi. Bon après c'est l'aspect purement technique, mais votre avocat, avant on déposait ce que vous avez indiqué, vous, une requête. Aujourd'hui, on assigne, on appelle ça une assignation. C'est-à-dire que l'avocat va envoyer un projet d'assignation. Donc, le projet d'assignation, c'est dire, voilà, situation au sein de la famille, voilà ce que madame demande. On envoie ça au tribunal, le tribunal vous renvoie ce document avec une date d'audience. Et une fois qu'on a ça, on envoie notre assignation et notre date d'audience à un huissier de justice. Il va débarquer chez monsieur, il va déposer ce document. Il va y avoir une date d'audience. Donc alors, vous vous présentez ou pas, maintenant, la présence n'est pas obligatoire, même quand on engage la procédure de divorce. Et ensuite, il y a une première décision qui va être rendue. Et votre avocat sera invité, si vous êtes toujours d'accord pour ce divorce, sera invité à engager la suite de la procédure. Donc ça se fait toujours en deux fois.
D'accord.
Voilà, donc quand votre avocat dit ça, l'avocat dit pas de bêtises.
D'accord. Et comme là, monsieur, il a quitté le territoire français, il est reparti en Algérie, donc il donne pas de nouvelles, pas d'adresse, rien du tout.
Ah bah là, ça va être problématique, en fait, dans ce cas-là, mais votre avocat a dû vous le dire. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, si vous savez pas où se trouve monsieur, si vous dites il est parti en Algérie, mais je sais pas où, eh ben, votre avocat va demander à l'huissier de justice d'assigner, c'est-à-dire de poursuivre monsieur à la dernière adresse connue.
Bah, c'était chez moi.
Bon, bah voilà.
Bah donc, ça se complique de plus en plus, d'accord. Bah.
Mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que...
Faut envoyer l'inspecteur tard.
C'est exactement ça, faut peut-être envoyer l'inspecteur tard.
Ouais. En Algérie.
Ouais. Mais c'est vrai que... vous avez combien d'enfants, comme un... Vous m'avez parlé d'une demoiselle, il y a combien d'enfants?
J'ai trois enfants, 18, 15 et un garçon de 13.
D'accord. Mais donc, il ne demande pas de nouvelles de ses enfants, et puis vous me dites qu'il est parti, a priori, s'installer en Algérie.
Oui, il est en Algérie, là-bas, oui. Du tout. Mais de toute façon, il n'a pas le droit de rentrer en contact avec les enfants. On lui a retiré l'autorité parentale.
Ah oui, d'accord. Bah oui, donc... dans ce cas-là, autant aller en Algérie. Ou ailleurs. Mais ça va être compliqué, mais vous avez compris, encore une fois, c'est ce qu'on disait, il faut savoir qu'il y a maintenant, depuis le 1er mars, un nouveau système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous obtenez une pension alimentaire, c'est les services de la CAF qui vont essayer de récupérer cet argent, mais j'imagine mal la CAF engager des procédures en Algérie pour essayer de récupérer cet argent. Donc vous aurez à minima quand même quelque chose de la part de la CAF, mais ça ne vous interdit pas de demander quand même, même si vous avez l'impression que monsieur, alors il est insolvable ou il est plus sur le territoire français,
il a une entrée d'argent tous les mois, il gagne très très bien sa vie. Donc c'est pas ça qui gêne. Quand il est financièrement, il est très très bien servi.
Mais donc qu'est-ce qu'il irait faire en Algérie s'il va faire le même métier là-bas?
Ben, il fait pas le métier. Il a des pensions qui tombent chaque mois, donc voilà, cool.
Il a dépensé quoi?
Il a des pensions. Il a une pension d'invalide. Il a une
rente,
un accident de travail. Il accumule de salaire de la probité P. Donc le compte chaque mois, il a de quoi se alimenter. Hein. Voilà.
Bah après, vous savez, enfin si l'argent est versé par les autorités françaises, il y a rien qui interdit, même si monsieur est au pays. Il y a rien qui interdit de procéder à des saisies.
Oh bah ça serait super.
Donc techniquement c'est possible.
Eh ben c'est super. Donc déjà ça c'est rassurant. Déjà rien que d'entendre ça c'est très bien. Ouais. Parce que c'est pas ça, c'est pas l'argent qui lui manque. Hein. C'est juste pour nous embêter. Voilà.
Voilà madame.
Merci beaucoup pour vos
Merci à vous pour votre appel.
À vous et bon week-end.
Bonne journée madame.
Merci Ilham. Je rappelle que vous pouvez interroger Maître Serran après l'émission. Ça continue d'ailleurs, c'est très simple, il suffit de l'appeler sur son téléphone portable.
Vrai. Après l'émission, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Maître Serran sur Beurre FM, merci mon bon maître.
Merci à vous, merci à tous.
Très bientôt. Hein,
très sur bientôt. Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.